Chapitre 8. Réponse. Le lendemain, M. et Mme Taylord et leur fille Lavinia étaient à déjeuner quand Sir Hugh entra. « Mon frère, dit-il, j'ai quelque chose de la dernière importance à vous communiquer et il ne sera pas mal que ma sœur puisse aussi l'entendre. Ainsi, je présume que ma chère Lavinia se hâtera de nous laisser seuls sans qu'il soit besoin de lui en donner l'ordre. » À l'instant même, Lavinia se retira. « Oh, mon cher frère, continua le baronnet, savez-vous qu'un jeune drôle, qui a l'air pourtant d'être une bonne patte d'homme, ce qui est très fâcheux, est tout à coup devenu amoureux d'Eugénia ?» Alors il montra à M. Tyrol les deux lettres. « À présent, ce qui me contrarie dans cette affaire, c'est que ce jeune homme, que Miss Margland appelle un homme de distinction, écrit aussi bien que clairement lui-même, ce dont je me garderai bien de convenir avec Eugénia, n'ayant en vue que son bonheur et celui de Clermont. » Après avoir lu attentivement les lettres, M. Tyrol les donna à sa femme et fit à son frère plusieurs questions sur la fortune, les mœurs, la réputation de celui qui les avait écrites et les diverses particularités de cette nouvelle connaissance. Tout cela, dit Sir Hugh, est la suite d'un bal et d'un déjeuner public. Il n'y a point de reproche à faire à la petite Camilla, car si personne ne lui eût mis ces choses-là dans la tête, elle n'y aurait jamais songé. Il n'y a rien à dire non plus au pauvre Lionel. Il est bien naturel qu'il ait cherché à procurer un peu d'amusement à ses sœurs. La faute en est particulièrement aux assises, et ma principale objection est contre les gens de loi qui viennent dans une ville transporter et pendre de pauvres malheureux comme pour entretenir le bon ordre, ce qui encourage les gens riches à se mettre en goguette et à faire le plus de bruit qu'ils peuvent, quoique je veuille bien croire qu'étant tous assez grands docteurs, ils ont pour cela de fort bonnes raisons. « Je me flatte, dit Madame Tyrold, daignant à peine achever la lecture des lettres. Qu'Eugénia, toute jeune qu'elle est, n'a pas besoin d'avis pour estimer à sa juste valeur celui qui a écrit de pareilles lettres. Quel peut être, en effet, celui qui, présumant assez de lui-même, se hasarde à lui demander son consentement à une démarche aussi sérieuse, quoiqu'il ne l'ait vue que deux fois et qu'il sache bien qu'elle ignore absolument son état, ses principes et son caractère. Miséricorde, s'écria le baronnet, il faut que je sois une bien pauvre tête. Je n'ai pu fermer l'œil toute la nuit à cause de la belle lettre de ce Godelureau, que désormais j'appellerai hardiment de ce nom, et dans la crainte qu'il ne vînt à couper l'herbe sous le pied à ce pauvre Lindemer, quoiqu'il soit maintenant en train de faire son tour d'Europe. » À présent, parfaitement tranquillisé, Sir Hugh allait prendre congé de son frère et de sa belle-sœur. Mais M. Tyrold le pria de se rasseoir jusqu'à ce qu'il eût avisé au moyen de sortir de cet embarras. « Mon cher frère, je n'ai pas besoin d'autre secours, à présent que je sais votre opinion, c'est-à-dire celle de ma sœur, que je puisse en toute sûreté regarder comme la vôtre. Je ne doute pas que Eugénia n'ait, pendant mon absence, écrit toute sa réponse, ou peu s'en faut, et M. Orborne la revisera, afin que ce blanc-bec n'y trouve pas un mot à reprendre. » M. et Mme Tyrold furent d'avis d'aller dîner à Clèves pour en causer eux-mêmes avec Eugénia. « Et comment, dit M. Tyrold avec une émotion secrète, comment vont les affaires entre Edgar et Indiana ?»« Bien, parfaitement bien en vérité, répondit Sir Hugh. Ce n'est pas que je prétende en juger par moi-même, car je suis peu versé dans ces sortes de matières, m'en étant occupé trop tard. » Alors il répéta avec beaucoup de chaleur tous les récits que lui avait fait Miss Margland et qui ne permettaient pas de douter qu'Indiana n'eût fait irrévocablement la conquête du jeune Edgar. M. Tyrold fixa l'heure à laquelle il attendrait la voiture et le baronnet demanda que Lavinia fût de la partie. « Parce qu'elle a, dit-il, de la discrétion et qu'elle sait se retirer à propos sans se le faire dire deux fois. Exemple que doivent suivre aujourd'hui chez moi Camilla et Indiana aussi bien que le jeune M. Edgar. Car je ne crois pas qu'il fût prudent de confier à des commençants tout ce qui se passe, au moins jusqu'à ce qu'ils soient un peu plus avancés en âge. » À l'inquiétude que causait à M. Tyrold la démarche de Bellamy, se joignit alors un regret sensible dont Mandelbert était l'objet. La droiture même de sa conduite pouvait à peine consoler M. Tyrold de la perte d'une de ses plus chères espérances. Accoutumé depuis longtemps à lire dans le fond de son âme et à partager tous ses sentiments, sa fidèle compagne ressentait un déplaisir plus vif, quoiqu'il ne fût pas plus profond. Que le cœur d'Edgar, dit-elle, fût resté totalement insensible, j'en aurais été moins surprise. Il est difficile à captiver, non par aucune disposition de sa part à l'orgueil ou à la présomption, mais parce qu'il a contracté l'heureuse habitude de pratiquer toutes les vertus et de remplir scrupuleusement tous ses devoirs. S'écarter un moment de cette ligne est à ses yeux une offense. La plus légère inattention lui cause de la peine. Pouvait-on prévoir qu'il ferait un pareil choix ? Edgar a trompé mon attente. Je ne verrai plus en lui qu'un jeune homme de la classe la plus commune et qui n'a pour diriger son jugement que ses yeux. Ma chère Georgina, disait M. Taylor, mon attente est aussi cruellement déçue. La fortune de nos deux aînés est trop modique et Eugénia, ainsi placée en évidence comme un prix offert à la cupidité ou à l'astuce de quelque aventurier, se trouve dans une situation fort dangereuse. Je me croyais exempt de toute inquiétude, au moins pour l'une de mes filles. Je me reposais déjà sur Edgar Mandelberg du soin de la rendre heureuse. Il paraît qu'il n'y faut plus penser. Ma chère, réjouissons-nous pour Indiana. Personne n'a plus qu'elle besoin d'un protecteur et, après mes trois filles, il n'en est point à qui je doive prendre plus d'intérêt. Cependant, je suis affligée à cause d'Edgar lui-même, dont la raison, aujourd'hui éblouie par le prestige de la passion, reprendra bientôt tous ses droits. Non, dit Madame Tyrold, je suis trop irritée contre lui pour en avoir pitié. Il a trop de bon sens pour qu'une telle conduite soit pardonnable. J'ai souvent pensé que notre douce Lavinia était née pour être sa femme, et certainement elle était bien digne d'un pareil sort. Mais la perfection de son caractère calme et paisible me rassure pour elle et toute ma sollicitude se tourne sur Camilla. Quant à notre pauvre Eugénia, je n'ai jamais espéré qu'elle pût être l'objet de son choix, quoique par ses qualités intérieures, cette infortunée jeune fille soit au moins son égale en talent et en vertu. C'est donc vers notre Camilla que mes vœux secrets l'avaient guidée, vers cette aimable, vive et généreuse créature dont tous les sentiments sont des vertus, mais dont les mouvements libres et francs ne connaissent point d'obstacle. Je n'ai pas pour elle la plus légère crainte tant qu'elle agira avec réflexion. Mais je tremble quand je considère qu'elle peut être jetée, par l'impulsion du moment, dans des circonstances vraiment périlleuses. Avec lui, cependant, elle aurait été en sûreté. Avec lui, elle aurait été, après sa mère, la plus heureuse des femmes. Ils se félicitèrent réciproquement de cette sympathie de sentiment et convinrent ensemble que leur bonheur eût été trop parfait pour ce monde si cet arrangement avait pu avoir lieu. Cependant, ajoutait Madame Tyrold, il est incroyable qu'Indiana, qui n'est que belle, ait pu remporter une telle victoire sur mes deux filles, Lavinia et Camilla. C'est à quoi je ne puis songer sans indignation. Eugénia parut devant eux avec un air timide et confus. Cependant, ils virent que son embarras provenait uniquement de sa jeunesse et de son inexpérience et que son cœur était tranquille. Les observations de Camilla avaient dessillé ses yeux, et en lui apprenant à faire moins de cas des vœux suspects de cet adorateur, elles avaient considérablement affaibli la satisfaction qu'aurait pu lui causer une semblable conquête. Ayant reçu de son oncle la permission de répondre elle-même à sa lettre, elle présenta à ses parents une réponse conçue en ces termes. À Alphonse au Bellamy, Esquire. Monsieur, je suis fort sensible à la préférence dont vous voulez bien m'honorer, et je regrette qu'il ne soit pas en mon pouvoir de la mériter. Ne soyez donc, je vous prie, ni offensé ni affligé, si je vous avoue que je ne puis vous offrir, en retour de votre bienveillance envers moi, que mon estime et mes remerciements. Veuillez, monsieur, ne point arrêter votre pensée sur ce qui pourrait vous être pénible dans cette réponse naïve et sincère, recevoir l'assurance de tous mes vœux pour votre bonheur et croire que je n'oublierai jamais une distinction à laquelle j'ai si peu de droit. Je suis, monsieur, votre très obligée et très reconnaissante servante, Eugénia Tyrold. Monsieur Tyrold, enchanté de voir que, dans ses études avec le docteur Orkborn, Eugénia avait complètement évité l'écueil de la pédanterie et de l'affectation, et même qu'elle avait conservé toute la modeste simplicité de son caractère, lui rendit sa lettre en l'embrassant avec tendresse, et lui dit qu'il n'est désiré d'autre changement que la suppression du mot « reconnaissante » qui se trouvait à la fin. Madame Tayrol en fut beaucoup moins satisfaite. Elle aurait voulu qu'on lui recommençait en entier, prétendant qu'un homme qui, selon toute probabilité, n'était autre chose qu'un coureur de fortune, serait plutôt encouragé que rebuté par un refus énoncé en termes aussi doux. Sir Hugh dit qu'il n'y manquait à son avis qu'une seule chose, savoir un mot qui donnât à entendre qu'il y avait déjà un engagement formé entre Eugénia et un de ses parents. À ce propos, Eugénia rougit et se retira. Et Madame Tayrol rappela au baronnet, avec un peu d'humeur, qu'il avait promis de garder le secret sur ce projet. Sir Hugh, un peu troublé, dit que c'était par oubli qu'il manquait à sa promesse, mais que désormais il y prendrait garde. Il ajouta qu'il ne consentirait point à ce qu'on fît aucun changement à la lettre d'Eugénia, ce qui serait, dit-il, un affront à sa science, à moins que ce changement ne fût fait par le docteur Orkborn lui-même, qui, étant son maître, avait le droit de corriger la leçon de son écolière. On fit donc appeler le docteur Orkborn. Il jeta rapidement un coup d'œil sur la lettre, mais il n'y trouva rien de répréhensible et la rendit en disant « Je crois que cela peut suffire. Au surplus, je n'enseigne à Miss Eugénia que les langues grecques et latines. Lui apprenne l'anglais qui voudra. » Ici se termina la visite de ses bons parents. Ils retournèrent, pleinement satisfaits de leur irréprochable Eugénia et contents d'avoir vu leur bien-aimée Camilla aussi heureuse et aussi libre que lorsqu'elle les avait quittés. Mais Mandelbert avait passé dehors la journée entière. Il n'avait pu, conséquemment, faire aucune observation qui les mit à portée de découvrir ses sentiments secrets. Indiana, qu'ils observèrent attentivement et avec laquelle ils conversèrent un peu plus que de coutume, ne leur offrit rien qui pût justifier à leurs yeux la prédiction de Mandelbert. Madame Tayrol fut donc bien aise de son absence en réfléchissant que l'accueil froid qu'elle lui aurait fait en dépit d'elle-même aurait infailliblement dévoilé son mécontentement aux yeux du jeune homme. Son mari l'invitait à être circonspecte. « Nous n'avons pas droit, disait-il, de disposer du cœur d'Edgar. » Et Indiana, quoique peu faite pour remplir son attente par la suite, est au moins pour le présent un choix sortable. Elle est belle, jeune et sage. Au printemps de la vie, ses qualités suffisent pour le bonheur et Edgar est trop jeune pour savoir combien il reste encore de temps à vivre après que la jeunesse est passée. Il a trop peu d'expérience pour prévoir que la beauté perd son pouvoir même avant qu'elle ait perdu ses charmes et qu'au déclin de la nature, on soupire alors après les consolations qui ne peuvent être entre deux époux que le résultat de la bonne intelligence et d'une heureuse sympathie.